Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité « Qu'en pensez-vous? » Une émission où on analyse l'actualité de la semaine. Et comme à chaque semaine, j'ai une panéliste de renom. Et cette semaine, qui de mieux que Joannie Riendo? Bonjour Joannie!
Bonjour Pierre! À chaque fois tu me fais sourire, je me sens plus importante que je suis vraiment quand tu me présentes.
Il faut bien que quelqu'un te fasse sentir importante.
Ah, merci!
ça va bien?
Ça va très bien! On ne se le cachera pas, la semaine passée, c'était... Je sais pas pour toi, mais avec la semaine de relâche, on dirait que tout est... Il n'y a pas tant de choses, mais tout est intense,
c'est ouais. Temps-ci. Oui, c'est vrai. Ça roule. Commençons donc immédiatement avec Accès Loisirs. C'est quoi Accès Loisirs?
Oui, bien, on commence quand même avec un gros dossier qui me fait plaisir. Tu sais que j'aime ça commencer nos émissions avec une bonne nouvelle. Mm-hmm. Accès Loisirs, c'est un organisme à travers le Québec qui a été parti par une championne olympique de natation à Québec, dont le principe est d'offrir des services de loisirs ou de sport gratuitement aux personnes avec peu de revenus. Okay. Donc, depuis seulement 2 ans, à travers la MRC Maria Chapdelaine, le service est offert à nos concitoyens. Donc, oui, ça, c'est un service qui existe déjà. C'est dans une journée d'activité bien particulière où des personnes... peuvent choisir des activités qui ont été préalablement préparées pour eux, okay. Que ce soit des formateurs ou des entraîneurs qui donnent des places gratuitement à Accès Loisirs. Puis lorsque les personnes viennent, ils peuvent sélectionner. Puis comme ça, ils sont inscrits sans discrimination parce que dans le cours, il n'y a personne qui sait qui a payé, qui n'a pas payé. Oui. Donc, ça permet à tout le monde de profiter
ça
de...
Ça démocratise le loisir. Hein?
Oui, puis ça permet aussi de réseautage, de la sensibilisation. Donc, au lieu de, ça évite l'isolement des individus étant donné leur situation socio-financière.
Et pourquoi on en parle aujourd'hui?
Oui, parce que le 15 octobre dernier, la journée où on enregistre aujourd'hui, il y a une annonce qui est faite par la ministre de l'Éducation et des activités sportives. Je ne me souviens plus trop c'est quoi le nom du ministère, désolée, qui a annoncé un financement important pour le programme Accès Loisirs à travers le Québec. Étant donné la période de pandémie, afin d'aider les fédérations sportives, mais aussi promouvoir le service d'Accès Loisirs, étant donné qu'il y a des personnes qui vont perdre au niveau financier cette année, bien, ça va éviter la discrimination pour janvier, lors de la nouvelle saison d'activité et d'inscription.
Ça va permettre aussi aux organismes qui donnent ces formations-là de pas non plus de perdre trop de personnes, là, puis d'avoir une saine vie, en fait, d'être capable de continuer à offrir des services.
Bien, tu sais, Accès Loisirs, je vous ai parlé des activités, mais Accès Loisirs aussi, c'est une banque d'équipements qui est à Québec, que les organismes de loisirs ou même les organismes municipaux qui offrent une programmation de loisirs, s'ils sont inscrits à Accès Loisirs, peut aller chercher des équipements, des buts de soccer, grand format, des bâtons de hockey, tout ça pour rendre vraiment le sport accessible, les sports et les activités de loisirs. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le soutien moral, le soutien de nos concitoyens qui peuvent vivre la pandémie plus difficile que les autres.
C'est génial. Bonne
oui.
Nouvelle. Merci.
Ben, j'aime ça commencer avec une bonne nouvelle à nos émissions.
Ben, on va continuer avec une autre bonne nouvelle. Bilan de la saison du Bleuet. Ce qu'on a vu, c'est qu'un peu partout, entre autres au nord des États-Unis, dans les Maritimes, la saison du Bleuet a été plutôt moyenne. Mais ici, hein, on est la capitale mondiale du Bleuet. Le Bleuet sauvage a eu une excellente saison. J'entendais M. Senneville, qui est le porte-parole des producteurs de Bleuet sauvage.
Oui, président.
Président qui disait qu'on est dans le top 10 des saisons, donc une très bonne récolte pour nous cette année.
Mais avec des particularités aussi au niveau de la gestion des ressources humaines, parce que une certaine partie des travailleurs, c'est des travailleurs étrangers qui venaient faire la cueillette. Au début de la saison, ils pensaient avoir seulement le quart de ce qu'il y avait dans les années précédentes, mais finalement, ils ont eu la moitié. Mais ça leur a permis quand même de compenser la perte, ou plutôt le manque de production que d'autres territoires font, comme par exemple les Maritimes ou le nord des États-Unis, le Maine principalement. Oui, c'est intéressant, mais M. Senneville aussi a bien dit quelque chose. Ça ne fait pas une année record. La production n'a pas été record non plus. Il y a une belle qualité. Oui, c'est peut-être dans les 10 à 6 meilleures années, Mais le fait que les autres territoires n'ont pas été capables de produire autant que les années précédentes fait que notre petit bleuet, notre petit fruit bleu, bien, il va chercher d'autres parts de marché pour combler ce que nos compétiteurs.
Puis les prix aussi doivent être meilleurs.
Les prix n'ont pas été encore déterminés parce qu'il faut quand même se dire qu'on vend le petit fruit jusqu'au mois de juillet de l'année suivante. Donc, c'est un peu dangereux de dire c'était le prix, fait qu'un produit, puis un acheteur dise bien là, tu me le fais plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu de prix en particulier, mais M. Senneville, lors de l'entrevue, a quand même été très optimiste face au prix qui pourrait être vendu. Puis cette année, il était quand même quoi, 71 cents le litre? La livre, oui, excusez-moi. La livre de bleuet. Donc, c'est quand même un prix qui est très respectable. Il y a déjà eu des meilleures années, mais c'est pas la pire, disons.
Ouais.
Et, tu sais, Monsieur Senneville l'avait déjà dit aussi, étant donné la nouvelle réglementation qui fait que la cueillette de bleuet est maintenant taxable, est imposable, puis en plus, avec la PCU, bien, il y a eu quand même des problèmes à recruter des cueilleurs.
OK.
Mais malgré toutes ces embûches-là, c'est quand même très intéressant de voir que notre petit fruit bleu va quand même faire son chemin. Puis, il y a deux risques là-dedans. Le premier, c'est que le bleuet, tel qu'on le vend, c'est souvent à des transformateurs, par exemple, pour faire des smoothies et autres, parce que le bleuet sauvage est beaucoup plus riche en antioxydants, beaucoup plus sain que celui qui est d'élevage, là, celui qui est cultivé. Mais, donc, il y a deux risques là-dedans. Le premier, c'est que le gros avantage, ça va être de faire reconnaître puis de faire apprécier, peut-être augmenter le prix du bleuet, étant donné qu'il va y avoir une pénurie sur le marché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, est-ce que les transformateurs vont plus adopter le bleuet cultivé pour combler puis ajuster les recettes afin, puis dans les années suivantes, bien, étant donné que le bleuet cultivé est moins cher, peut-être combler avec le bleuet cultivé beaucoup plus que qu'est-ce qu'on en vend. Donc, c'est à voir. On a un bilan pour cette année, pour la cueillette 2020, mais ça ne veut pas garantir qu'en 2021, ça va être génial. Il faut voir comment le marché va évoluer.
D'accord. On va suivre ça. Une autre bonne nouvelle, le bloc opératoire à l'hôpital de Dolbeau-Missassini, c'est parti.
Depuis le temps qu'il en parle, depuis le temps, c'était nécessaire. Les équipements étaient à revoir. Oui, un équipement, mais c'est aussi, si je me souviens bien, c'est qu'il augmente. On va avoir plus de capacité. Oui, il y a un scandale à l'hôpital de Dolbeau-Missassini qui a été fait qu'on a perdu le service de pédiatrie puis d'obstétrique. Moi, j'ai eu la chance d'accoucher à Dolbeau-Missassini, puis j'ai eu de la chance parce que c'est à la période où on a eu des problèmes avec des anesthésistes. Je suis tombée la semaine qu'il y avait un anesthésiste à Dolbeau-Missassini. Sinon, je devais accoucher soit à Roberval ou à Alma.
Ou sans anesthésie?
Non.
Non.
Non, automatiquement, non, parce qu'en cas de...
En
cas de problème, ben, faut aller en césarienne, puis il faut un anesthésiste pour la césarienne. Donc, ça, on peut pas le faire, parce que moi, par exemple, mon cas personnel, même si j'aurais voulu avoir naturel, c'est juste impossible. Donc, c'était dangereux, s'il n'y avait pas d'anesthésie sur place, d'accoucher. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est un bel investissement. Je sais aussi qu'il y a des entreprises locales qui sont dans la conception et dans la construction de ce bloc opératoire-là, parce qu'on a quand même des bonnes expertises en matière de métaux chirurgicaux, on ne se le cachera pas.
Ouais.
Reste à voir, est-ce qu'il va y avoir une augmentation des services? Parce que même si on a des nouveaux équipements, on n'a peut-être pas assez de monde pour les utiliser. Déjà, Dolbeau-Missassini a des pénuries de main-d'œuvre dans certaines spécialités. Est-ce que ça veut dire qu'un bloc opératoire de plus ou un bloc en meilleur état, ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de chirurgiens ou plus de personnes
Donc,
disponibles?
C'est une bonne nouvelle, mais ça ne règle pas tous les problèmes.
Non, bien, on va être mieux outillés pour les gens qui sont présentement. On va être plus attractifs aussi pour les gens qui veulent venir travailler. C'est toujours plus le fun de travailler avec des nouveaux jouets, avec des nouveaux outils, avec... Mais ça reste qu'on a quand même un problème au niveau du recrutement des professionnels. Donc, on se croise les doigts, on aide nos organismes tels qu'on peut. Mais c'est enfin un investissement payant qui va être payant à long terme pour notre hôpital local.
Génial, génial! Bon, nouvelle moins bonne, là. Déjà, on a fait trois en ligne, on est popé. Bon, campagne de financement centrale qui commence. Je veux élargir, parce qu'il n'y a pas juste l'entraide, mais en période de COVID, c'est essentiel, en fait, ces campagnes de financement-là pour l'entraide, les soupes populaires, tout ce qu'il y a. Mais là, ça devient compliqué. On sait déjà que la guignolée des médias n'existera pas cette année, etc. Donc, c'est du financement qui est hyper important pour ces organismes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait?
Il faut faire attention, parce que, par exemple, la guignolée des médias et l'entraide ne font pas Ils ne feront pas de campagne de financement. Ils ne vont pas annuler leur campagne de financement.
Non, ils vont la faire différemment.
Ils vont la faire différemment. Il n'y aura pas de porte-à-porte, la guignolée des médias où que les gens étaient dans la rue puis c'était des barrages routiers pour ramasser des fonds. C'est plus possible. Ils s'entraident avec les petites banques des jeunes qui se promènent de porte-à-porte. À l'Halloween, ça ne sera pas possible. Mm-hmm. Mais je vais donner l'exemple de mes collègues de travail. On est en train déjà d'organiser le party de Noël. Parce que, étant donné la période COVID, on ne pourra pas se rassembler. Alors, on s'est dit, on va faire livrer des produits locaux à nos collègues. Soit les déposer à leur porte ou les faire livrer parce qu'on a des collègues à travers le Québec. Donc ça, c'est déjà le fun. Mais j'ai des collègues qui étaient mal à l'aise de recevoir des cadeaux. Alors, donc, je vous offre ça comme idée. Si vous aimez les organismes, dans vos échanges de cadeaux, marquez donc l'organisme à laquelle vous voudriez donner votre cadeau. Mm-hmm. Donnez un cadeau. Il y en a déjà qui disent, tu sais, donner ma fête en cadeau. Il y a des campagnes à propos de ça qui permet à des gens, au lieu de donner un cadeau au fêté, donner l'équivalent en argent à un organisme que le fêté a choisi. Bien, on peut réutiliser cette méthode-là dans nos échanges. Donc, bonne nouvelle, depuis que la personne en question a donné cette idée-là, bien, sur les trois idées cadeaux, tout le monde a mis un quatrième avec un organisme pour mettre la différence. Mmh. Des fois, les gens vont dire, bien, moi, je veux un plus petit cadeau, mais la différence dans un organisme qui me tient à cœur. Donc, c'est une très bonne façon d'encourager nos organismes locaux parce que s'entraide. Une grosse importance, c'est Centraide, ce n'est pas n'importe qui. Centraide, c'est une grosse organisation qui permet de rassembler l'argent et de la redistribuer.
Dans le milieu.
Dans le milieu. Mm-hmm. L'argent qui est recueilli dans le milieu et retourne dans le milieu. Donc, c'est retourne par projet, retourne avec un financement qui est déjà établi pour certaines organisations, comme la majorité de nos maisons des jeunes sont financées par Centraide à un certain point. Il y a des organismes à but non lucratif qui ont aussi une partie de leur financement qui est faite par Centraide, mais aussi lorsqu'on a des projets au sein de ces mêmes organismes-là qui sont déjà membres. Puis Centraide aussi, dans son fonctionnement, la période de financement, oui, il y a la grosse campagne Centraide, mais chacun des membres qui profite de l'argent Centraide doit faire une campagne de financement Centraide à sa hauteur.
OK.
Donc, c'est une bonne façon d'encourager à la fois votre organisme et d'encourager le développement local puis le meilleur soutien auprès de nos concitoyens. Bien, c'est de donner aux organismes lorsque c'est une campagne Centraide. Il y a des entreprises qui offrent, ou plutôt que c'est un programme dans leur salaire, où il y a une ligne Centraide, où les gens, à chaque paye, donnent un montant à Centraide tout au long de l'année. Donc, il y a plein de façons. Moi, je parle de Centraide, mais ça peut être la guignolée des médias. Il y a plein d'organismes qui vont devoir se réinventer. Mais c'est à nous aussi de réinventer la manière dont on va donner. On ne peut plus donner en personne. On ne peut plus donner les denrées. Denrées, ça va toujours être utile. Mais dites-vous que 1 $, ce que vous avez acheté à l'épicerie en denrées, par exemple, ça peut être 2 cannes de soupe aux tomates. Mais un organisme à but non lucratif qui a une entente déjà, bien, le 1 $ va peut-être être capable d'en acheter 4. Donc, c'est plus payant pour une personne d'avoir de l'argent, d'avoir de la liberté d'acheter ce que la clientèle a besoin que de donner une denrée, parce que la denrée, elle dure une fois. Donc, c'est à penser. Oui, c'est triste de vivre la méthode COVID, mais il y a deux façons de voir la situation. Soit on s'adapte et on s'améliore, soit, bouhou, on ne peut pas refaire ce qu'on a fait dans les années précédentes. Mais nos organismes sont très résilients, très, très résilients. Donc, il faut les encourager à la manière dont on est capable.
Super, merci. On va maintenant parler de santé mentale. On a vu le Centre de santé mentale, l'Arimage, qui dévoilait que là, les lignes ne dérougissent plus. Le COVID crée énormément d'anxiété auprès de la population.
Oui.
Et donc, moi, je veux qu'on en parle parce qu'un, c'est un service essentiel. Deux, il y a des gens qui n'ont peut-être jamais vécu ça, l'angoisse face à la maladie, face à leur travail, face à leur situation, ils ne savent pas quoi faire. Donc, oui, c'est une porte qui peut s'ouvrir, l'arrimage, mais en même temps, comment on peut gérer ça si eux sont déjà débordés, là? Est-ce que tu as des solutions?
Bien, le centre de santé l'arrimage est quand même un incontournable dans les services aux personnes avec des troubles de santé mentale. Puis quand on dit troubles de santé mentale, là, on ne parle pas seulement de schizophrénie, là, on ne parle pas de troubles psychiatriques.
Donc, juste l'anxiété, là.
De l'anxiété, la déprime, une déprime qui dure un peu trop longtemps.
Dépression.
Ça peut aller vers la dépression. C'est un réseautage avec des professionnels et des bénévoles qui sont là pour nous écouter. Puis quand on dit de l'écoute, c'est vraiment de l'écoute. C'est pas, il n'y a pas de jugement. Ça fait du bien, ça. Il n'y a pas de jugement. Ouais. On a le droit d'avoir des failles. C'est, la santé mentale, c'est un tournant important de notre santé globale.
Ah oui.
Parce que sans la santé mentale, notre santé physique ne sert à rien. Elle ne sert à rien, tu sais.
Oui, puis quand tu as des problèmes de santé, tu es déprimé, etc., ça a un effet direct sur ton milieu de vie, ta famille, etc., fait que ça peut créer d'autres problématiques.
Oui, puis, tu sais, il y a le milieu de vie, il y a le milieu économique aussi. Parce que lorsqu'on a un problème de santé mentale, nos comportements auprès de nos collègues de travail, auprès de notre clientèle, auprès de nos employeurs, nos employés, bien, fait que même si on ne reconnaît pas nous-mêmes le problème ou qu'on ne reconnaît pas le problème d'un collègue, bien, on se retrouve vraiment dans des situations plus qu'inconfortables envers tout le monde.
Oui, puis personne n'est à l'abri. Hein.
Personne, personne, personne. Et au Québec, il y a une augmentation importante de ventes d'antidépresseurs prescrits depuis le début de la pandémie. Puis déjà au Québec, il y avait une grande vente des antidépresseurs. Parce que la santé mentale, on le rejoint souvent avec des troubles psychiatriques. Donc des troubles qui ont besoin, dans certains cas, selon le psychiatre, selon le médecin, de médicamentation. De médication. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puis il y a toujours ou quasiment toujours une façon de prévenir. C'est là que je veux en venir, c'est que comment nous être un bon aidant? Lorsqu'on voit être un aidant envers nous-mêmes, premièrement, donc lorsqu'on ne se sent pas bien, bien, se donner le droit de ne pas se sentir bien, c'est une première chose. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse de se dire « Hey, aujourd'hui, c'est de la merde.
Ouais. »
Aujourd'hui, ça va pas bien, je déprime, j'ai besoin d'aide.
Si ça dure 2, 3, 4, une semaine, bien là, à un moment donné, c'est peut-être le temps d'aller chercher de l'aide.
Oui, puis aller chercher de l'aide, on peut commencer par quelqu'un qu'on a confiance. Parce que notre réseau aussi social est important là-dessus. Donc, aller chercher, premièrement, se renseigner nous-mêmes, aller voir, appeler par exemple le Centre de prévention suicide, le Centre de l'arrimage. Il y a plusieurs organismes qui peuvent nous aider sur le territoire et au national aussi. C'est anonyme. C'est anonyme, on a le droit. Puis juste ventiler, bien, tu sais, juste, c'est beaucoup. Se donner le droit de ventiler, se donner le droit d'avoir une faiblesse, ben, c'est pas une faiblesse, c'est juste dire « ma pression est trop forte ». On a tous un réservoir d'émotions négatives, puis c'est dur de le vider lorsqu'on ne peut pas le partager avec quelqu'un. Donc, il faut le partager. Mais comment nous le recevoir quand quelqu'un a un problème aussi, c'est important?
Ouais, parce que des fois, on n'a pas les bons outils pour ça. Là. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas les bonnes ressources. On dit ce qu'on pense, mais est-ce que ce qu'on pense, c'est la bonne chose à dire ou à faire?
Oui, puis on n'est pas... Très peu de personnes sont des professionnels là-dedans. Donc, on a fait des études où on a une expérience particulière. Puis même une expérience personnelle ne s'adapte pas à tout le monde. Le nombre de personnes en dépression qui se font dire « Ah, c'est juste une déprime, relève-toi, ça va aller. » C'est pas la même chose une déprime saisonnière qu'une dépression majeure. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même défi, ce n'est pas... le nombre de personnes que j'ai entendu dire, puis me dire des fois, « Ah, va faire de l'activité physique, ça va faire le plein d'endorphines. » Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et la santé mentale, c'est tellement délicat et très peu connu, parce que ça fait peu d'années qu'on est sensibilisé à la santé mentale.
On se permet de dire qu'on a eu une problématique aussi. Souvent,
oui.
On voulait cacher ça parce que c'était mal vu en société.
Oui, puis on n'en parlait pas dans les médias ou on n'en parlait que négativement aussi. Maintenant, il y a même des gens qui sortent avec fierté avec leurs troubles parce qu'il y a des troubles de différentes façons. Mais en tant qu'aidant, la première chose, c'est d'écouter.
Arrêtez d'arriver avec des solutions avant d'avoir terminé d'écouter les autres. Tu sais, c'est important.
Puis, posez tes questions.
Oui.
Pas « Ah, j'ai compris, fais telle affaire, ça va être réglé. » Non, t'es pas psychiatre, t'es pas psychologue, puis la personne ne te demande pas ça. À moins qu'une personne te dise « Selon toi, quelle est la solution? » Et clairement, elle ne veut que vider sa soupape. Elle ne veut que... Elle ne veut ou... C'est le premier besoin d'une personne qui voit du noir, qui ne se sent pas bien, c'est de partager ce qui se passe. Pas besoin de trouver une solution. Tu sais, par exemple, Pierre, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien?
Ça va bien? Il n'y a pas de stress ces temps-ci?
On n'est pas assez proche pour que je te confie
Ben, ça se peut.
ça. Oui?
Ça se peut très bien. Tu sais, donc, c'est une autre chose. Il faut pas. Il ne faut pas forcer non plus la personne. Si on voit que la personne est déprimée, ben c'est simplement dire « Je suis là si tu veux en parler.
»
Ou
«
Je suis là si tu veux en parler. » Ou encore « Je m'inquiète pour toi. As-tu quelqu'un à qui parler? » Aussi. C'est ça, être bienveillant envers quelqu'un. Poser des questions. Poser des questions. Ah oui, dis-moi en plus. Qu'est-ce qui se passe? Sans trop, là, je voulais qu'on fasse un peu une mise en scène, ça n'a pas marché, mais c'est quelqu'un qui. Ouais, ça va bien, mais. Ah non, finalement, telle affaire, ça va pas bien.
Parce qu'on a le réflexe, hein? Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va? Là, on s'est croisés, on s'est même pas regardé dans les yeux, on s'est juste dit, comment ça va?
Mais quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on voit que ça va pas bien, puis elle nous dit ça va bien pareil, ben c'est possible de le dire. Il y a quelque chose qui me chicote. Il y a quelque chose qui me chicote. Est-ce que tu as quelqu'un à qui t'en parler? C'est tout. Faut pas forcer. Faut pas. Donc, déjà, juste ça, c'est beaucoup. Faire preuve d'écoute,
Empathie.
d'empathie, référer au bon professionnel. Okay. Des fois, là, on peut éviter beaucoup de crises à juste laisser la personne sortir les émotions. Sans jugement. Je sais, c'est difficile. C'est très difficile lorsqu'on est dans une société de performance, lorsqu'on est dans une société où tout doit fonctionner, puis tout doit bien paraître.
On ne veut pas se montrer faible,
On ne veut pas se montrer
etc.
faible, mais on ne veut pas non plus voir les autres faibles. On ne veut pas voir, on veut les aider. Mais les aider, des fois, c'est juste leur laisser vider.
Leur sac.
Le vider le sac, puis sans jugement, si c'est quelque chose qui vous choque, ben vous attendez que la personne vous l'explique, puis une façon, c'est pas ce que tu as fait, c'est mal. C'est ça m'a rendu mal à l'aise à cause de est-ce que j'ai bien compris? Ça peut faire développer plus loin et vider la soupape beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Puis toujours référer aux bonnes personnes. Il y a beaucoup de lignes téléphoniques, puis il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour aider. Si vous avez une grosse inquiétude aussi, Info Santé, vous savez que au même numéro, vous avez Info
L'info sociale.
Social. Donc, vous n'avez personne à qui parler ou vous ne savez pas comment accompagner quelqu'un, parce que ça m'est arrivé aussi. En tant qu'accompagnante, en tant que personne aidante, je me suis sentie débordée par les problèmes de quelqu'un, ben moi-même, j'ai appelé InfoSanté pour moi-même m'outiller, moi-même vider ma soupape de toute la pression d'aider quelqu'un, mais ensuite dire qu'est-ce que moi je peux faire? Mais ben, si on dit tu peux rien faire, ben moi je sais que je vais avoir été chercher mon information. Mais ça arrive pas souvent, au contraire, c'est ben il y a tel organisme que tu pourrais laisser tel papier. Il y a plein de solutions qui sont faites autant pour les aidants que pour les personnes qui ont besoin de parler. Prenez le temps d'attendre au téléphone parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des fois, qui peuvent répondre, mais ça vaut la peine. Puis pourquoi ça prend du temps à attendre? Parce que chacun des intervenants prend le temps avec la personne au téléphone. La priorité n'est pas de répondre à la personne dès que ça sonne, c'est de prendre le temps avec la personne pour qu'elle se sente mieux puis mieux outillée plus tard.
Merci, Joanie. C'est un beau témoignage que tu as livré là. On va s'en aller au niveau de la politique, là. Le projet de loi de 50 a été adopté. Qu'est-ce que c'est le projet de loi 50? C'est en fait le renouvellement des barrages hydroélectriques qu'on a dans la région pour donner de l'énergie à peu de frais à des grandes entreprises. Dans le cas ici, on a PFR, hein, qui donc les baux pour leur donner l'électricité. ont été re-signés pour 20, les 20 prochaines années. En contrepartie, PFR doit investir 200 millions dans la région sur les 20 prochaines années. C'est souvent là que le bas blesse. Des fois, quand ça signe, les investissements sont supposés être là, puis au bout de 20 ans, on s'aperçoit que n'a pas tout le temps été là. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil? Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens au niveau municipal, entre autres à Saguenay, qui disaient là, il faut demander plus, il faut charger plus, il faut utiliser cette énergie-là à meilleur escient. C'est quoi ton analyse de cette situation?
Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, il est où l'outil de contrôle? On a la carotte, mais il est où le bâton? Mm-hmm. C'est quoi l'outil qui va permettre de dire, non, t'as pas atteint tes objectifs, t'as pas respecté ton côté de l'entente, t'as bien beau sortir toutes les excuses du monde, PFR, c'est un engagement que t'as. C'est un engagement en tant que citoyen.
Mais t'as pas l'impression souvent là, que ce qui arrive, là, c'est que là, les entreprises disent « Ah, là, le contexte… » Tu sais, on a vu ça avec Alcan, entre autres, là, avec Rio Tinto, je m'excuse, là, à nombreuses reprises. Là, il était souhaité d'investir 2 milliards dans la région, puis là, c'est tout le temps « Ah, le contexte économique… » Mais c'est un engagement, là, je veux dire, le gouvernement, lui, même dans le même contexte économique, il tient promesse là, avec son engagement.
Ben c'est ça. Il est où le bâton? Pour nos gouvernements, c'est nous. On les remettra pas au pouvoir s'ils ne respectent pas leurs engagements. Puis ouais. Leur engagement, c'est aux 4 ans, pas aux 20 ans, comme PFR, en tant que citoyen industriel. Fait, citoyen corporatif, fait. Il n'y a pas de bâton. Hey, bravo, je te donne ça, puis à condition que tu fasses ça. Mais il n'y a rien. T'as pas de. Si tu le fais pas, c'est fini.
Il n'y a pas de mécanisme.
Il n'y a pas de mécanisme de régulation, de surveillance sur le respect des conditions. Puis il n'y a pas de mécanisme assez fort. On a peur que ces entreprises-là fuient notre région, qui est quand même un employeur important. On a peur qu'ils fuient, on a peur qu'ils s'en vont. Mais je vais vous annoncer quelque chose. S'ils ont à s'en aller, qu'il y ait un engagement ou pas, ils vont s'en aller.
Mais le bois, il reste ici, là. Non, mais le bois, il pousse ici, là. Dans
le bois, il pousse.
On va continuer à travailler avec cette ressource-là, là.
Oui et non. C'est que là, on rentre dans le fonctionnement des entreprises forestières. Dépendamment de comment ils ont été négociés avec le gouvernement, les territoires sont des fois en obligation avec une usine, d'autres fois non. On l'a vu dans les années, dans plusieurs autres régions.
Saint-Thomas, là, quand l'usine
ben, c'est ça.
Transférée
à Gérardville, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini. On en a quand même beaucoup sur notre territoire, des usines PFR. Ben, il va toujours avoir une bonne raison pour leur comportement. Leur comportement en tant que citoyen corporatif. Et oui, il y a une raison politique, mais en tant que citoyen, la seule chose que nous, on a comme outil, c'est notre pression sur le gouvernement. Mais le gouvernement ne met pas de pression sur les entreprises afin qu'ils respectent ces engagements-là. Donc, puis c'est pas juste la CAQ, hein?
Non.
C'est depuis très longtemps.
L'entente que les libéraux ont signée avec Rio Tinto qui n'a jamais été respectée. Là, ça,
Donc, il n'y a pas de bâton. En tant que citoyenne, je ne suis pas une citoyenne corporative, mais j'ai le droit à tous ces services-là à condition que je paye des impôts. Je l'ai le bâton, je peux me faire poursuivre.
Ouais.
Mais pourquoi une entreprise, lorsqu'elle prend un engagement aussi important, n'a pas de bâton, elle?
Oui, je suis parfaitement d'accord.
Pourquoi, là, c'est supposé être un gros payeur. Il est supposé être un gros payeur de taxes.
Oui, puis en plus, c'est quand le gouvernement ne respecte pas son entente, les compagnies poursuivent le gouvernement.
Ben oui!
Le gouvernement ne fait jamais rien face aux entreprises qui ne respectent pas leur entente.
Ben non, c'est ça! Il y a la logique du gouvernement à dire, ben là, c'est parce que si on perd des emplois parce que les entreprises ne veulent pas rester, il y a une question.
Oui, c'est toujours les mêmes menaces.
C'est toujours les mêmes menaces, puis je vais vous le dire, ben franchement, les entreprises ne vont pas rester à cause d'un engagement. Et puis, je ne parle pas juste de PFR, là.
De toute façon, les décisions ne se prennent pas, souvent, se prennent pas dans la région.
Non, souvent, presque jamais.
Ouais.
Presque jamais. On a quand même des bons représentants de PFR au nord du lac Saint-Jean, pour les connaître dans le cadre de mon travail, qui travaillent fort pour que la région se débrouille. Mais ils ont quand même un pouvoir limité face au QG, face au siège social. Ouais, donc,
QG, c'est vrai.
Le quartier général. Mais ça reste que c'est... Moi, je me dis toujours, quand on voit des... Surtout sur 20 ans, il est où le bâton?
Et on verra dans 20 ans parce que.
Et où la menace?
Là, en plus, c'est que les gens qui ont pris cette décision-là au niveau gouvernemental, il n'y a plus personne qui va.
Ils vont être retraités.
Hey, je t'arrête parce que nous, on s'en va à la pause et on revient immédiatement avec la suite de notre émission. À tout de suite.
Au début, je me suis dit que ça pouvait pas être ça, que c'était juste mes allergies. Je toussais un petit peu, mais j'avais pas de fièvre. Sauf que même si je m'entraîne, j'étais épuisée juste à monter les marches. À partir de ce moment-là, j'étais toujours fatiguée. Je commençais à avoir les lèvres bleues puis à manquer d'air. Le jour de ma fête, j'ai pas eu le choix, j'ai dû appeler l'ambulance. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux.
J'étais chez une amie, on jasait dans le cadrage de porte. Rien de plus banal que ça. Mais 3 jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, la difficulté à respirer, jusqu'à plus être capable de respirer. Avant, j'étais entrepreneur général. Aujourd'hui, j'ai une trachéo, puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux.
Le sport, c'est une grande partie de ma vie. Puis il n'y a rien comme de le pratiquer entre amis pour essayer de se dépasser. Mais en ce moment, il faut continuer de faire attention pour nous, pour nos amis puis pour notre famille. C'est pour ça que quand on s'entraîne ou quand on veut juste chiller, il faut suivre les mesures en place. Il faut éviter les rassemblements, limiter la taille des groupes puis se tenir à 2 mètres. Je le sais que c'est pas facile, mais on est capable. Parce que plus on va se protéger, plus vite on va passer à travers.
On est de retour avec la suite de notre émission et Joannie Riendo qui nous analyse ça de main de maître, comme elle sait si bien le faire. Joannie, passons maintenant à l'actualité nationale. Bon, on en a parlé pas tant que ça, là, durant que ça se passait, là, parce qu'on parlait beaucoup du COVID, mais il y avait la course à la chefferie du Parti québécois. Mmh. On a eu les résultats vendredi dernier et c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui devient le nouveau chef du Parti québécois. Je vais te laisser commencer. Peut-être que j'aurai des choses à dire là-dessus. Quelle est ta perception de cette élection, en fait, de ce mandat qu'on donne à Paul Saint-Pierre Plamondon? Et je veux aussi ton analyse en lien avec ce qu'on avait comme candidat extraordinaire dans la région, Sylvain Godreau. En fait, je comprends pas cette décision-là de la part des militants du pays.
Non, moi non plus, je la comprends pas. Surtout que c'était le candidat à la chefferie qui n'avait été appuyé par aucun des députés.
Mais non, il n'est pas à l'Assemblée nationale.
Il n'y a pas d'expérience à l'Assemblée nationale.
Non, puis là, après ça, il vient se comparer en disant « Oui, mais M. Lévesque et M. Parizeau, mais on est loin de la prestance ou de l'avoir que ces gens-là avaient. » Puis Sylvain Godreau, wow, quelle personne intègre, avec des valeurs, un parler franc qui est de tous les combats, qui est présent dans son milieu. Je veux dire, j'ai encore l'impression que c'est les militants plutôt dans les grandes villes, Montréal, Québec, qui ont élu Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, ça va être compliqué de rallier les membres du PQ, là, parce que les positions entre Sylvain Godreau et Paul Saint-Pierre Plamondon étaient très, très loin.
Ah oui, oui, c'était aux antipodes. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils l'ont élu parce qu'il apportait une nouvelle vague, une nouvelle émotion.
Ils ne comprennent pas l'idée du sauveur, là. Ils l'ont fait plein de fois avec André Boisclair, avec Pierre-Carl Pelado, avec tout ça. Ça ne fonctionne pas.
Non, ça ne fonctionne pas. Puis ça donne une image au parti qui est complètement instable. Complètement instable. On part d'une façon à une autre, d'un personnage. On n'a pas entendu parler de Paul Saint-Pierre Plamondon dans les régions du Québec. On n'en a pas entendu parler. Sylvain Godreau a été de toutes les tribunes. À chaque fois qu'il a été interpellé, ou il a parlé des sujets en toute connaissance de cause, il a offert des idées qui étaient avant-gardistes, qui étaient intéressantes.
Il s'intéresse aux gens, il a des valeurs claires, il n'est pas en train de tergiverser sur sa position, jamais. C'est toujours limpide quand il parle. C'est un candidat de choix. Et là,
je ne suis pas membre du parti, je n'ai pas voté. Puis je veux vous dire, bien franchement, cette course-là était plate. Elle était plate. Ben là, oui, on était en période COVID, oui, mais on avait un humoriste, un gars de région, un gars de la ville, puis l'autre, il y avait un quatrième, je sais même pas c'est qui!
Ouais, ben M. Bastien, mais M. Bastien, il représentait beaucoup la branche, si vous voulez, du nationalisme identitaire, plutôt très à droite. Moi, je suis plutôt content
mais
que ce soit
pas pour vous dire à quel point on avait quand même une course avec quatre candidats, pas opposés, mais très différents, très intéressants quand même. Lorsqu'on analyse après, il y avait un potentiel très intéressant à utiliser dans un contexte où on doit tout repenser notre manière de voir la politique. En période de pandémie, c'est quoi les priorités? T'es obligé d'y penser tout de suite, là. Mm-hmm. En plus, avec la situation avec les relations autochtones, faut y penser tout de suite. Donc, on a vraiment plein de situations politiques qui nous portent à se poser des questions sur l'immigration économique. Il y a plein de choses. Et là, on avait une superbe, de belle occasion, une année où on aurait pu aborder tous ces sujets-là de manière concrète et efficace.
Mais ils ont parlé quand même de beaucoup de choses, mais la couverture médiatique a été très ordinaire. Moi, je considère aussi les
ben,
médias.
On a vécu une éclipse, une éclipse médiatique, puis une très longue avec le COVID.
Qui dure encore.
Qui dure encore, oui, mais c'est pas autant que les premiers mois où tous les citoyens, ou presque, étaient scotchés devant leur télé pour voir qu'est-ce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada allaient faire avec la COVID. Oui, il y a cette éclipse médiatique-là, mais l'éclipse n'a pas été éternelle non plus. Puis c'était la belle occasion. Est-ce que c'est la responsabilité du directeur des communications de chacun des candidats ou du parti lui-même qui a mal promu la course? Je pense que oui, un petit peu beaucoup. Je pense qu'ils ont laissé de la place au gouvernement présent pour gérer la crise, mais ils n'ont pas voulu trop parler des tensions internes d'un parti qui est en tension interne depuis je sais plus combien d'années. Hein? Alors que ça serait très intéressant pour une fois de voir des conflits à l'intérieur d'un parti dans un cadre d'une situation où les idées sont extrêmes. Donc, en temps de COVID, on a les deux extrêmes au niveau de plusieurs gestions politiques.
À la défense du parti là-dessus, contrairement au Parti libéral ou à la CAQ, qui sont des partis d'establishment, le Parti québécois est un parti d'idées, un parti qui rassemble derrière l'idée d'indépendance. Et de toutes les époques, on a eu des gens qui étaient autant à gauche qu'à droite. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça se chicane plus. Je veux dire, à l'époque de René Lévesque... Ben oui, ça a du bon. Mais l'impression qu'on a, c'est que ça chicane à l'intérieur du parti. Mais en fait, c'est parce que c'est un parti d'idées, c'est qu'on va débattre ces idées-là. Je veux dire, Jacques Brassard et René Lévesque n'avaient pas les mêmes idées politiques, ils ont quand même réussi à travailler ensemble.
Là. Oui, puis c'est parce que c'est ça que ça représente le Québec. C'est ça que ça représente le Québec, la diversité d'opinions, le challenge intellectuel à se poser des questions, puis à voir nos manières de percevoir la situation, puis trouver des solutions. C'est à ça que ça ressemble le Québec. C'est pour ça que je dis, il aurait pu tellement profiter au lieu de... Comme le Parti libéral a tapé sur la tête, du gouvernement en place, la CAQ, bien, ça aurait été une bonne opportunité pour le Parti québécois de se poser la question. Nous, si on avait été au pouvoir, qu'est-ce qui serait passé? Nous, qu'est-ce qu'on aurait mis en priorité? Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est quoi nos priorités? Oui, il y a l'indépendance. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est pas un argument. La CAQ a été élue parce qu'ils ont promis l'indépendance eux autres aussi. Ce n'est plus un argument. C'est pas seulement ça, mais c'est une des choses...
Ils n'ont pas promis
l'indépendance. Non, ils n'ont pas promis, mais je veux dire, ils n'ont pas fermé à l'indépendance.
Ben, ils sont plus autonomistes, là, mais je dirais pas qu'ils sont souverainistes. Là.
Non. Attention, j'ai pas dit souverainiste.
Non, mais quand tu dis on promis l'indépendance, moi je pense qu'on est loin de là. Ben,
ils sont déjà beaucoup plus proches de l'indépendance que toutes les autres partis qui sont sur place. Qui ont déjà été au pouvoir ou qui sont dans la Chambre dans l'Assemblée nationale. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, c'est plus ça l'argument. C'est se dire que le PQ est à l'image de notre Québec. Des fois, c'est contradictoire. On a de la place pour discuter, mais on a quelque chose là-dedans que je trouve qui est important, qu'on a peut-être oublié aussi, c'est que le Québec est avant-gardiste. Puis j'ai l'impression que les électeurs dans le PQ ont oublié ça. Ils ont voulu aller avec une impression d'un sauveur, tu l'as dit, avec une impression de quelque chose qui va apporter un vent de renouveau. Mais renouveau ne veut pas dire changement. ne veut pas dire ben, changement politique. Ça va faire « Ah, j'ai un nouveau visage ». Mais y a... est-ce que les mêmes, c'est les mêmes idées?
Ben non, 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 mais ça, ça, c'est l'histoire de la politique. Là. Regarde juste le Québec solidaire qui nous ont promis de faire de la politique différemment. Mais ils jouent au même jeu que Monopoly que les autres. Là. Ils font pas la politique différemment. Ils font de la politique pareille comme toutes les autres parties. Là.
Mais c'est au niveau des débats internes.
Ouais.
Donc, Québec solidaire, c'est pas pour rien que c'est pas des chefs, c'est des porte-parole. Parce que tout doit se faire en grand groupe pour se voter, puis ils portent la parole des membres du parti. Donc ça,
c'est bien beau dans l'idée quand on l'est là, mais quand tu regardes le fonctionnement, en tout cas...
Bien, c'est ça, la politique interne. Attention, il faut faire la différence entre une politique interne puis une politique nationale. La politique, la manière dont c'est géré à l'interne puis la manière dont c'est géré au national, c'est deux mondes différents.
En tout cas, on va voir, mais on laissons quand même la chance à M. Saint-Pierre-Plamondon de démontrer ce qu'il peut faire, mais je mets des bémols.
Déjà qu'il a annoncé qu'il ne voulait pas déplacer un député pour être à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une marque de respect pour les députés qui n'ont pas pensé à lui en premier, qui ne l'ont pas appuyé dans sa campagne? Peut-être, mais l'image que les Québécois en ont, ben c'est bon, ben il sert à quoi?
Ben là, c'est parce que ça va être quand qu'il va être à l'Assemblée nationale? Un chef a besoin d'être là et d'être élu rapidement parce que c'est là que ça se passe. Je veux dire, dans le débat de dire des choses, c'est une affaire, mais où ça se passe, où l'action, les commissions parlementaires, tout ça, ça se passe à l'Assemblée nationale. Je veux dire, ça doit être
C'est
là,
pas
là.
Dans les couloirs, c'est dans la salle. Parce qu'il a dit « Ah, je vais être présent, je vais être présent ». Mais tu vas être présent pourquoi? Tu pourras pas participer au débat. Tu pourras pas être le visage du parti. Pascal Bérubé a fait une bonne job pour ça, d'être le visage du parti, puis il reste encore le chef de cabinet, du cabinet fantôme. Donc, tu sais, il faut se poser la question, là. À quoi il sert?
Ouais, on va réfléchir à tout ça.
Ou plutôt, hey, comment il voit son rôle?
Ouais. Je veux t'entendre sur notre nouveau ministre des Affaires autochtones. On sait qu'il y a eu, la mort de Joyce Echaquan a fait beaucoup de remous, et puis M. Legault a changé. Donc, Mme Damour a été démise de ses fonctions de ministre en lien avec les affaires autochtones. Et c'est M. Yann Lafrenière qui est le nouveau ministre aux affaires autochtones. Je ris, ça me fait rire parce que quand on lit, entre autres, le rapport de la commission vient, on voit que les relations entre la police et les autochtones ont toujours été très... et un des enjeux qui est complexe, en fait, dans cette situation-là. Et là, on va nommer un ancien policier qui fait ça. Je veux t'entendre.
Un ancien policier, j'ai pas un problème avec ça. Parce que avec les scandales qu'il y a eu à Val-d'Or et en Abitibi, la mentalité au sein de la police, comme la Sûreté du Québec, a changé. Puis il y a maintenant des professionnels, des policiers professionnels qui sont allés chercher des formations puis qui travaillent fortement la création d'un lien de confiance avec la police, avec la police locale, des communautés, mais aussi avec la relation avec les Autochtones. C'est pas le fait que ce soit une police. C'est le fait que ça soit Yann Lafrenière. Yann Lafrenière a quand même été directeur de la SPVM, le service de police de la ville de Montréal, en pleine période où le profilage racial était dans son pic et qu'il refusait de reconnaître le profilage racial.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'image politique qu'on a de... Je sais qu'au Québec, on a une mémoire de poisson rouge face à notre face à la politique, mais là, il y a quand même des limites. OK, M. Lafrenière a quand même été dans les parties prenantes en lien avec la discrimination raciale, le profilage racial au sein de la police. Il l'appuyait puis aidait ses collègues de travail là-dedans. Puis... Je ne comprends pas. J'espère que monsieur... Il y a quelque chose de bon quand même. Madame Damour, elle avait brûlé des ponts avec beaucoup de chefs autochtones.
Ouais.
Ça, plusieurs membres des communautés vous diront la même chose. C'était pas facile si ce n'était pas impossible de travailler avec Madame Damour.
OK.
Est-ce qu'elle avait les moyens de travailler? Ça, c'est autre chose. Ça, il faut regarder aussi en arrière du tableau. Ouh. Des fois, le ministère des Affaires autochtones, là, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, là. Donc, elle a de la... peut-être aussi qu'elle se débattait dans un petit bocal. Là. Elle essayait de faire quelque chose, puis elle pouvait pas, puis elle était bloquée par son chef ou par le cabinet.
Un an après le rapport de la commission vient, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il se passe aussi des choses.
Oui, mais est-ce que c'est de son ressort ou du ressort des ministres des Finances? Il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi. Je ne sais pas quels étaient ses moyens, mais aussi quelles étaient ses priorités. Madame Damour, j'ai appris que c'était elle. L'eau. là parce qu'elle a perdu sa job. Mm-hmm. Pas parce qu'elle a fait des sorties ou des améliorations. Non, en plein dans la période où il y a énormément de scandales qui sont sortis par les journalistes, des scandales qui datent de dizaines, de cinquantaines d'années, ou que, oui, la commission vient, mais il y en a d'autres choses qui sont sorties entre-temps. J'espère, Madame Damour, que vous débattiez puis qu'on ne vous a pas vu. Moi, je commande ce que je vois dans votre travail en tant que femme blanche, en tant que femme blanche mi-trentaine active. Là, je ne peux pas...
l'information que tu as.
J'espère que vous vous débattiez entre deux eaux, entre les communautés autochtones qui recherchent plus d'indépendance, d'autonomie et de ressources, parfait, puis un gouvernement qui semblait sans... Avant, est-ce que c'est le gouvernement de la CAQ? Non, je crois plus que c'était des besoins qui étaient assez importants, qui étaient durs à combler. C'était pas une priorité gouvernementale d'améliorer la condition. En plus que la situation des affaires autochtones est très particulière parce que c'est une responsabilité fédérale et provinciale en même temps. Mm-hmm. Donc, ils se renvoient la balle!
Tout le temps.
C'est pas mon dossier, c'est pas mon dossier, c'est pas mon dossier, c'est pas mon argent, c'est pas à moi de m'en occuper. Donc, tu te retrouves... Personne veut prendre la patate chaude. Ouais. Mais là, Madame Damour a été remplacée par un homme, alors que la CAQ disait qu'il était paritaire. Comptez le nombre de femmes qu'il y a présentement au Conseil des ministres.
Oui, chaque fois qu'il y en a une qui ne fait pas l'affaire, on l'attend comme gars. Un homme. Oui, oui, ça, j'avais remarqué ça aussi.
Ça, c'est... Il y a ça. Mais Monsieur Lafrenière... Moi, j'espère, OK, parce que je sais que les relations avec les chefs autochtones se sont beaucoup améliorées, les conseils de nation, d'accord, mais...
On veut voir de l'action aussi. On est tanné d'entendre juste des bonnes paroles, on va faire
ça va se faire? C'est pour ça que je me demande aussi, est-ce que Mme Damour avait les mêmes outils que M. Lafrenière va avoir?
On ne le saura jamais.
Ça, on le saura pas tant qu'il n'y aura pas un livre de journaliste dans 50 ans qui va sortir. Hein? C'est quand même ça, la réalité. Là. Il va y avoir un journaliste qui va faire une biographie puis qui va expliquer que finalement, ce qui paraissait dans les médias puis la réalité d'en arrière les rideaux n'était pas du tout la même chose. Avec le décès de Mme Échaquan, bien là, il y a un branle-bas de combat qui a fait qu'il y a un gros changement puis que là, le gouvernement a enfin décidé de mettre... Mais c'est peut-être pas de la faute à Mme Damour non plus.
On ne le saura pas, comme tu dis, demain vivant.
Monsieur Lafrenière, point. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Dites-moi que ça va s'améliorer. Je veux le voir. Je veux le voir briller par son changement de mentalité puis par l'amélioration des relations avec les communautés autochtones puis la bienveillance qu'il va faire avec les communautés et l'adaptation, l'échange interculturel et l'amélioration des conditions de vie de tous et chacun face à la communauté autochtone. Je le souhaite! Je le souhaite profondément! J'ai peur que ça reste juste un souhait.
On va voir, ce ne sera pas la première fois que ça arrive! Ouais. Je t'amène du côté de la drogue parce que la SQDC a dévoilé ses chiffres et après un an de mise en service, parce que ça va faire 2 ans là, que la SQDC, donc le cannabis est légal maintenant au Canada. Donc, un des objectifs était d'enrayer le marché noir. Après un an, on estimait qu'on allait chercher le tiers du marché noir. Après 2 ans, on est à 50% du marché noir qu'on considère qu'on est allé chercher. C'est quoi ton analyse, toi, de ça? C'est-tu parce qu'on a commencé à prendre l'habitude, on a moins peur, on fait confiance, on normalise, ou est-ce que c'est parce que depuis que la SQDC, il y a plus de consommateurs, donc plus de volume, donc finalement, c'est juste qu'on a augmenté le volume de vente de consommateurs de cannabis?
Je pense que c'est un mélange des deux. Parce qu'il y a des consommateurs qui ont... Il y a des consommateurs qui se sont tournés vers la SQDC, mais il ne faut pas oublier qu'au début, il y avait des pénuries. Ils ne s'attendaient pas à avoir un aussi grand marché, ce qui est, selon moi, une très mauvaise étude de marché, si tu ne savais pas qu'il y en avait beaucoup. Première chose. L'autre chose aussi, c'est la qualité. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous pour le prix à laquelle c'est vendu. Il y avait très peu de succursales aussi. Ça fait pas le haut du lac va avoir sa succursale à la mi-novembre, à Saint-Félicien. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une à Roberval ni à Dolbeau. La plus proche était à Alma, là. Pour les consommateurs, c'est loin. T'sais. Quand tu es à Roberval, bien, c'est...
Mais ils ont un service en ligne aussi, je pense. Tu peux commander en ligne. Je sais pas, là.
Quand tu veux fumer,
Puis... Tu veux fumer maintenant?
Il n'y a pas de fumée maintenant, mais c'est plus intéressant de sentir, de te voir, de parler avec un conseiller, parce que ça, c'est un beau service que la SQDC offre. Ça, c'était très drôle au démarrage de dire « On veut engager quelqu'un qui n'a jamais fumé, mais qui s'y connaît. » Ça, c'est mon anecdote que je trouve très drôle, pareil. Mais le fait qu'il y avait... c'était pas à proximité. Tu sais, c'est... Puis... Donc...
Moi, tu penses que c'est, en fait, c'est le déploiement des SQDC, l'habitude qu'il a créé, finalement, ben écoute, là, on prend une plus grande place dans le marché, puis c'est plus simple pour les gens probablement d'aller à l'SQDC que...
Bien, c'est comme le c'est comme le démarrage des SAQ. Tu sais, on a commencé par les grands centres, mais les gens continuent à en acheter ailleurs parce que à quoi ça te sert d'aller dans un grand centre si tu es capable de l'avoir même si c'est légal, ouais. Tu sais. Même qu'il y a des livreurs, il y en a qui livrent à la porte. C'est dur à battre, là. Quand tu l'appelles, une demi-heure plus tard, tu l'as à ta porte, là. C'est dur à battre. T'es encore sur le marché noir, tu sais. Il y a ça à prendre en compte. Donc, il y a ça qui joue. Il y a des fois la qualité qui manque versus pour le prix, là. Je retiens à le dire, il y a des prix pour les joints roulés ou des produits qui sont comme... Je vais l'acheter parce que, oui, c'est légal, mais tu aurais le même produit au marché noir qui serait moins cher. Mais il y a une méconnaissance aussi de c'est quoi l'impact d'acheter au marché noir.
Ouais.
Il y a cette méconnaissance-là aussi qu'on doit rajouter dans la balance. Donc, c'est bon quand même parce que pour la première année, juste le tiers, ben c'est pas juste si beaucoup quand même de prendre le tiers du marché noir.
C'est moi, quand même une bonne évaluation. C'est comment qui évalue, en fait. Là, c'est des chiffres qu'on n'a pas. Là. Je veux dire, les vendeurs au marché noir, ils ne remplissent pas des rapports d'impôts en disant « J'ai vendu pourtant cette année, comment on fait? »
Tu ris, là?
Ouais.
Tu ris, mais il y en a que oui.
Ouais.
Oui, parce que pour en avoir parlé avec un policier, c'est plus risqué de mentir à Revenu Canada qu'à un policier.
Okay.
Il y a des gens qui le déclarent et qui payent leurs impôts puis leurs taxes sur la vente de drogue. Parce que s'ils se font poursuivre et ils demandent un procès, ben un procès pour le criminel, si Revenu Canada n'est pas dedans, c'est moins dangereux.
OK.
Si tu as un problème avec Revenu Canada, c'est plus dangereux.
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, c'est plus... La vie, c'est beaucoup plus serré, là. Donc, on rit, mais c'est quand même une réalité parce que les agents de l'Agence du revenu du Canada ou du ministère de... c'est là que je me souviens plus c'est quoi le nom. Mais pour Revenu Québec, ben eux autres, ils jugent pas. Ils veulent pas savoir c'est quoi le produit que tu vends.
Oui, OK.
Mais c'est ça. Il y a des gens qui disent « C'est correct, la poursuite au criminel, mais pas question au fiscal! » Ils ont peur des poursuites fiscales. Donc, c'est une façon, oui, mais il y a aussi les rapports de police, où qu'on voit aussi la vente illégale. C'est encore illégal d'avoir de la vente. Puis, tu sais, si tout est bien identifié, maintenant, il y a des timbres. Donc, tu sais, ça fait partie de ça.
Je t'arrête parce qu'il nous reste peu de temps et je veux qu'on parle d'un dernier sujet. Je vais mélanger en fait quelques sujets. On voit en fait là, que on n'a presque pas parlé de COVID. Le COVID continue sur sa lancée. On parle de plus de 20 000 cas par jour en France. D'ailleurs, à partir de samedi, il y aura un couvre-feu dans les grandes villes en France. Et avec ça arrive une plopée de conspirationnistes de tout genre. Et là, je veux être clair, là, tu sais, se poser des questions face aux actions du gouvernement, c'est hyper simple, c'est correct de se poser des questions puis de s'informer. Maintenant, il y a entre ça et les conspirationnistes qui nous... Je veux dire, des fois, ça va loin. Là. On voyait le monsieur qui a fait la pub avec sa trachéotomie.
Monsieur Brizard.
Ben oui, lui, là, il s'est fait harceler à 2h du matin. Mais je veux dire...
Des menaces?
C'est quoi, non, mais quel temps t'as à perdre pour déranger quelqu'un? Lui, écoute, il a fait ce qu'il pensait bien faire. Il n'est pas d'accord avec toi. Au bout du compte, ça vaut-tu la peine de l'harceler? Je trouve qu'on va loin. Et là, on a les réseaux sociaux qui commencent à s'en mêler. On a, entre autres... Facebook qui a fermé des pages. YouTube est en train de suivre la même vague. On voit ici le grand gourou de ça, Alexis Cossette-Trudel, s'est fait vu faire fermer sa page Facebook ainsi que son compte YouTube parce qu'il amenait un peu des propos diffamatoires. Puis, donc, il n'y avait pas de fact-checking. Là, donc, on ne vérifiait pas les faits de ce qu'il amenait. Et là, il y avait beaucoup de gens qui se posent pas la question. Tu me dis ça, moi, je le crois. Fait que, est-ce qu'on est en train de voir un changement au niveau des réseaux sociaux en lien avec ce genre de groupe-là? Puis on a vu là, Là, je vois large là, avec les groupes alt-right, QAnon, etc. Là, on voit qu'on commence à prendre nos responsabilités face à ces extrémistes.
Oui, il y a une responsabilité face aux extrémistes qui a été faite aussi, mais il y a beaucoup plus de sensibilisation de la part de la sécurité intérieure de plusieurs pays. Par exemple, de faire la différence entre quelqu'un qui remet en question puis quelqu'un qui est une menace à la nation.
Oui, c'est ça.
Donc là, maintenant, tu sais, c'est pas « je bloque un… » Tu sais, c'est comme les extrémistes de droite. C'est pas bloqué lorsqu'il y a des menaces de mort, des menaces d'attentat, ça devient une cellule terroriste. Mm-hmm. Donc, il y a des actions qui ont été faites par des complotistes ou des gens qui sont reliés à la COVID qui sont dangereux pour la santé publique. C'est limite un attentat par négligence. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qui est bien important et qui doit être documenté au niveau criminel. Donc, pour que Facebook s'implique là-dedans, c'est qui? Puis Facebook, mais pas juste Facebook. YouTube, on a deux gros Google, noms, là. Ouais. On a Alphabet, qui est propriétaire de Google, de YouTube et plusieurs autres organisations, et Facebook. Donc, on parle de deux géants qui se sont dit « OK, on va faire notre part sociale ». Puis quand on dit notre part sociale, je me demande si c'est notre part sociale ou encore dire « OK, je suis assez outillée pour ne pas me faire poursuivre si je fais fermer ces comptes-là ». Parce que c'est autre chose aussi mm-hmm. à prendre en compte. Parce que la limite est fine entre la liberté d'expression. La liberté d'expression puis la diffamation.
Oui, oui, vraiment.
Elle est très fine. Donc, il faut soit avoir dépassé ou soit être outillé légalement afin de contrevenir à ça sans être un dossier de justice, sans être un avocat, sans être une instance gouvernementale. Il faut être très bien outillé pour se dire « OK, je ferme ça pour telle raison parce que j'ai été backé par le système légal ». Parce que je démontre que c'est pas, je t'enlève pas le droit de parler, je t'enlève le droit de diffamer, je t'enlève le droit de... Ouais. Parce que j'ai pas le droit, je t'enlève l'accès à la diffamation. Parce que t'as pas le droit de diffamer, t'as pas le droit de... Tu sais, des fake news, ça date depuis très longtemps. Les fausses nouvelles, ça...
C'est juste que la diffusion est maintenant trop facile. En fait.
Oui, puis les fausses nouvelles, à la base, surtout sur les médias sociaux, c'était pour vendre de la pub. Parce que les gens, ils cliquaient sur l'annonce, puis là, t'avais plein de pubs. Puis là, les entreprises qui faisaient des fausses nouvelles, le but n'était pas que les gens prennent la nouvelle au sérieux, c'est qu'ils cliquent dessus, puis là, qu'ils voient plein de pubs sur leur site. C'est vraiment ça, là. Mm-hmm. Beaucoup pensaient que c'était inoffensif, là. Mais c'est très dangereux parce que les gens ne font pas de fact-checking. Tu sais, Éco-Vedette, Allopolis, c'était exactement sous le même principe.
Ouais. Hey, merci, Joannie. Oui. C'était encore très agréable de t'avoir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine. Au revoir.
Bonne semaine.